France Inter.
Quand les dieux rôdaient sur la terre, il y a très longtemps en Grèce, les intellectuels devaient faire attention à Athènes. S'ils professaient des opinions qui allaient contre la religion, s'ils essayaient de persuader la jeunesse que les dieux n'existent pas, ou que le soleil n'est pas une divinité mais une boule de matière en feu, ils risquaient gros. Un dangereux procès public pouvait leur tomber dessus. Ou bien, ils pouvaient se faire ridiculiser au théâtre en devenant la cible d'une comédie féroce, jouée devant des milliers de personnes. Socrate, le philosophe, a eu droit aux deux. D'abord, il a dû se voir sur scène. Ou plutôt, il a dû voir son double, une caricature impitoyable de lui, jouée par un acteur grotesque dans une comédie d'Aristophane.
Toi, Socrate, pontife des plus subtils radotages, dis-nous ce que tu désires.
Car à nul autre nous ne prêterions l'oreille parmi les sophistes transcendants d'aujourd'hui.
Pour ta démarche superbe dans les rues.
Et ton air imposant.
Quand les dieux rôdaient sur la terre. Pierre Judet de Lacombe sur France Inter.
Socrate, qui était dans le public, a dû contempler cette version cruelle de lui-même dans la pièce « Les nuées » d'Aristophane, alors tout jeune auteur de comédie qui n'était pas tendre. Nous avons commencé la semaine dernière à entrer dans cette pièce étonnante. Puis, une trentaine d'années après cette représentation, il a été condamné par un tribunal populaire. Parce que, disaient ses accusateurs, il ne respectait pas la religion et corrompait la jeunesse. Il s'est défendu, mais il a été condamné à mort et il est mort dans sa prison. Ça fait beaucoup. La pièce d'Aristophane, Les Nuées, dirigée contre les philosophes au sens large, est le seul témoignage sur Socrate que nous possédions, qui était écrit du vivant de Socrate par quelqu'un qui le connaissait bien. En fait, Socrate était très célèbre à Athènes. Sinon, Aristophane n'aurait pas fait toute une comédie sur lui. Socrate, ou plutôt son personnage, s'en sort très mal dans cette pièce. On le voit professer de grandes théories sur le monde qui semblent toutes plus invraisemblables les unes que les autres et qui vont contre la religion. Et surtout, on le voit enseigner à ses jeunes élèves, contre beaucoup d'argent, des thèses hallucinantes qui détruisent toute relation sociale censée, comme le droit de soutenir en parlant aussi bien ce qui est injuste que ce qui est juste. Le droit de dire que ce qui existe n'existe pas et que ce qui n'existe pas existe. Le droit pour un fils de taper sur son père et sur sa mère en réponse légitime et appropriée à tous les coups qu'il a reçus pendant l'enfance.
Paulin Ismar, historien.
Le portrait que nous présente Aristophane de Socrate n'a rien à voir, et même sous de nombreux aspects diamétralement opposés, à celui qu'en ont fait Platon, Xénophon et tous les disciples de Socrate.
Donc on fait en fait de Socrate un sophiste, quelqu'un qui est capable par l'éloquence de plaider les causes les plus discutables.
Oui, le sophiste tel que Platon en a dressé un portrait extrêmement négatif, où le sophiste, c'est vraiment le non-philosophe par excellence, la philosophie se construisant contre les sophistes. Mais pour les Athéniens, c'est pas du tout comme ça qu'ils percevaient Socrate.
Ces thèses destructrices seraient, selon la pièce, celles qu'encouragent à Athènes des courants intellectuels modernistes, nouveaux, dans l'éducation, dans la culture. Le Socrate qu'Aristophane met en scène ne ressemble pas beaucoup au Socrate réel, tel qu'on peut le deviner.
Veux-tu connaître les choses divines clairement et savoir ce qu'elles sont au juste ?
Ah oui, par Zeus, s'il y a moyen.
Entrer en relation et converser avec les nuées, nos divinités à nous ?
Ah, absolument.
Assieds-toi donc sur le grabat sacré.
C'est Ned. Voilà.
Prends à présent la couronne que voilà.
Et pourquoi une couronne ? Ah, Socrate n'allait pas faire de moi un autre Athamas et me sacrifier.
Non, mais tout cela, nous le faisons à ceux qui se font initier.
Le Socrate de cette comédie est une synthèse de tous les mouvements intellectuels qui se voulaient d'avant-garde à cette époque. À la fin du drame, le feu est mis à l'école de Socrate qui disparaît dans les flammes. Cette comédie nous offre un beau spectacle d'intolérance hargneuse. Mais pourquoi tant de haine? Pourquoi cette charge contre Socrate? Socrate est censé représenter dans la pièce toutes les nouveautés culturelles qui scandalisaient une partie de l'opinion athénienne. La science comme approche désacralisante, irreligieuse du monde. Une réflexion sur la société, sur les dieux, portée par une contestation radicale des bonnes traditions établies. Les dieux, avec ces nouveautés, ne rôdaient plus sur la terre. Ils étaient envoyés aux oubliettes. Mais s'agit-il vraiment de haine, de critiques féroces et acharnées de la philosophie? Aristophane a-t-il seulement écrit cette pièce pour faire la leçon et dénoncer les intellectuels contestataires, soi-disant novateurs, qui s'en prenaient à la morale, à la famille, à la tradition? Une comédie, ce n'est peut-être pas si simple. Sinon, on ne rirait pas, ou on ne rirait plus. Aristophane, à l'imagination ébouriffée, explosive et virtuose, n'est pas vraiment du genre moralisateur, pisse-froid, ou pour employer, en rapport avec la saison actuelle, une vieille expression française relevée par Claude Duneton, ce n'est pas un pisse-verglas. C'est vrai, Socrate dans la pièce est vaincu à la fin, son école brûle, mais il est le personnage fantasque, inventif, drôle, qui règne sur tout le drame. Il fascine. La pièce s'appelle « Les nuées », parce qu'on y voit apparaître des nuages, des nuées. Ces nuées envahissent la scène. Elles chantent, elles dansent, elles font le cœur du drame. On aimerait bien savoir comment Aristophane a fait pour transformer les jeunes gens qui jouent le cœur en nuages, en déesses nébuleuses. Leur entrée en scène devait être saisissante. Ces déesses, les nuées, rendent le drame vraiment spectaculaire. Elles font rêver, elles volent et entraînent loin des réalités immédiates. Elles sont insaisissables, fascinantes, comme Charles Baudelaire l'a fait dire à un étranger rêveur.
Qui aimes-tu le mieux, homme énigmatique? Dis, ton père, ta mère, ta sœur ou ton frère?
Je n'ai ni père, ni mère, ni sœur, ni frère.
Tes amis?
Vous vous servez là d'une parole dont le sens m'est resté jusqu'à ce jour inconnu.
Ta patrie?
J'ignore sous quelle latitude elle est située.
La beauté?
Je l'aimerais volontiers, déesse et immortelle.
L'or?
Je le hais, comme vous haïssez Dieu.
Hé, hey, qu'aimes-tu donc, extraordinaire étranger?
J'aime les nuages. Les nuages qui passent là-bas. Là-bas, les merveilleux nuages.
Pendant toute une longue partie de la pièce, ces nuages divins, ces nuées, sont du côté de Socrate. Elles sont ses amies. Et ce ne sont pas n'importe quelles amies. Elles sont puissantes. Elles font la pluie et le beau temps. Elles font la prospérité et les récoltes. Changeantes dans le ciel, elles font les changements de la fortune. Elles font les éclairs et le tonnerre. Au début, elles sont les alliées de Socrate. Elles lui sont même dévouées. Il peut les faire apparaître à sa demande. Comme chez Homère, on voit Zeus tout-puissant qui rassemble les nuages. Peut-être que Socrate, entouré de ces puissants nuages, est plus, un peu plus, qu'un simple et méchant perturbateur, ennemi des bonnes mœurs, et qu'il faudrait gronder. Mais attention, les nuages passent, ils changent. Ça va aussi changer pour Socrate, le magicien des choses célestes.
J'aime les nuages. Les nuages qui passent là-bas. Les merveilleux nuages.
France Inter, quand les dieux rôdaient sur la terre.
Sandcastles collapse and they sit. Keep it serene till you come with the racket and shit. Now I'm Serena, the pacifist, shit is past and it's tense. They said they won't let us in. I said they really playing catch up. Mine's been
ifs, buts. I don't give a rat's ass or a squirrel's last fuck. Everything apostrophe, the world is mine from mustard seed. These ain't shots fired, they just bullets in the wind. Word of villain and my kid is next to kin. If I ever die mysteriously, it's just crazy, need a pad that's padded and peaceful. I am Tracy, keep my ass fat and smile and teeth full. I need my Benjamins, I need my Grants, I need my Jacksons. You need some air, you need some grass, you need a passion. Target practice, sharpen my sword, the creed is a sassy. Loop, 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 baby, these days may be the last ones.
Pierre Judet de la Combe parle du Socrate qu'imagine, plutôt méchamment, Aristophane dans sa comédie Les Nuées.
Aristophane a conçu son drame autour d'un personnage, un paysan lourdement endetté. Ce personnage, qui s'appelle Strepsiade, ce qui veut dire celui qui sait se retourner ou faire tourner les choses, est totalement inculte, mais il est futé. Il doit à tout prix régler un grave problème de dette. Son fils est fou de chevaux et coûte très cher à son père qui lui achète des chevaux. Or, arrive le moment où le père doit payer ses dettes. Et là, se produit quelque chose d'extraordinaire. Le père ne peut pas payer. Mais il a entendu dire qu'un dénommé Socrate tient tout près de chez lui une école où on apprend des choses fabuleuses. On apprend à parler de la nature, de sa forme, de ses mécanismes secrets, en employant un langage savant totalement inattendu, ahurissant. Et surtout, on apprend à parler dans un langage libre, totalement décroché du réel. On apprend à dire pourquoi l'être et le non-être, c'est la même chose. On apprend à faire disparaître par les mots ce qui est et à faire apparaître ce qui n'est pas. Pour Strepsiade l'ignorant, parler de la nature qui existe, qui est réelle, avec des mots bizarres, inattendus, improbables, et faire apparaître ou disparaître les choses en parlant, c'est pareil. C'est dans les deux cas de l'entourloupe virtuose, portée par le vent des mots. Strepsiade se dit que dans cette école, on doit pouvoir apprendre à faire disparaître des dettes, puisqu'on pourra démontrer qu'elles n'existent pas. On pourra donc gagner des procès contre ses créditeurs en leur démontrant qu'on ne leur doit rien. On aura donc l'alliance tout à fait improbable d'un paysan malhonnête, un peu balourd, endetté et insolvable, et d'un institut scientifique d'avant-garde où on enseigne les techniques les plus perfectionnées du langage, des techniques hyper sophistiquées qui permettent de tordre le réel, de le substituer à une réalité virtuelle, et d'inventer autant de fake news que l'on veut. Le père Strepsiade veut convaincre son fils, Phidippide, l'amateur de chevaux, d'aller suivre l'enseignement de cette école. Il pourra ainsi plaider pour son père et lui effacer ses dettes quand viendront les procès. Le fils refuse. Il est sportif, élégant, et n'a aucune envie de ressembler aux élèves passablement décharnés, blafards et malingres qui fréquente cette institution sérieuse. Strepsiade décide alors d'y aller lui-même. Il se présente devant l'école, frappe à la porte, insiste pour entrer. Finalement, la porte est ouverte par un disciple. Et Strepsiade découvre un monde étrange, avec des jeunes gens dans de drôles de positions, qui arrivent à contempler en même temps la terre et le ciel, qui scrutent avec leur tête les mystères de la géologie des profondeurs et dont le derrière, tourné vers le haut, s'initie au mouvement des astres. Je cite la traduction si aristophanesque et fidèle de Myrto Gondikas.
Faut que j'apprenne, ça me brûle. Allez, ouvre la porte. Par Héraclès, d'où sortent ces animaux-ci?
Pourquoi cette stupeur? À quoi trouves-tu qu'ils ressemblent?
Aux prisonniers qu'on a fait à Pylos, les Spartiates. Et ceux-là, qu'est-ce qu'ils ont à regarder par terre?
Ils sont à la recherche des réalités souterraines.
Donc, ils cherchent des oignons sauvages. Alors ne vous embêtez plus, moi je sais où il y en a, des gros, des beaux. Mais ceux-là, que font-ils tout ratatiner le dos rond?
Eux, ils fouillent les rêbes dans les profondeurs du Tartare.
Et pourquoi leur trou du cul regarde le ciel?
Il s'enseigne à lui-même l'astronomie.
Toujours guidé par le disciple, Strepsia découvre un homme suspendu dans les airs, debout dans une corbeille, accroché à un palan. C'est le maître, Socrate. Il examine le ciel.
Dis donc, c'est qui là, l'homme accroché au palan?
C'est lui.
Qui, lui?
Socrate.
Hé, hey, Socrate! Vas-y, toi, aile-le pour moi, crie fort.
Appelle-le toi-même, je n'ai pas le temps.
Hé, hey, Socrate! Socratune!
Pourquoi m'appelles-tu vivant d'un jour?
Pour commencer, je t'en supplie, dis-moi ce que tu fais.
Je marche sur les airs en considérant le soleil.
Alors tu te mets sur un cléon plutôt que sur le sol pour déconsidérer les dieux, c'est ça?
Tu vois, je n'aurais jamais pu investiguer correctement les corps célestes si je n'avais pas suspendu mon intellect et ma pensée en mêlant sa finesse à celle de l'air, son semblable. Si j'étais sur le sol à observer d'en bas ce qui se passe là-haut, je ne trouverais rien. En effet, la terre attire irrésistiblement à elle la sève des pensées. C'est exactement ce qui se passe avec le cresson.
Comment ça? La pensée attire la sève vers le cresson? Allez, Socratoune, descends jusqu'à moi et apprends-moi ce que je suis venu savoir.
Strepsiade dit à Socrate exactement pourquoi il est venu. Il dit qu'il est prêt à payer très cher. La tradition favorable à Socrate dit qu'en fait, le vrai Socrate ne se faisait pas payer.
Et tu es venu chercher quoi?
Je veux apprendre à parler. Car j'ai affaire à des taux, à des prêteurs très intraitables qui me pillent et me ravagent et saisissent mon argent pour dette.
Et comment t'es-tu endetté sans t'en apercevoir?
Je suis rongé par une maladie atrocement gloutonne, la maladie du cheval. Mais apprends-moi ton discours, celui des deux qui fait qu'on ne rembourse pas. Comme salaire, je te paierai ce que tu voudras, je te le jure par les dieux.
La gaffe. Devant Socrate, il ne fallait surtout pas jurer par les dieux. Car pour Socrate, ces dieux n'existent pas. Il ne sent rien. Il n'y a pour lui comme divinité que les nuées, ces magnifiques déesses du ciel. Il faut les appeler, les faire venir vite. Car la science que Socrate pourra transmettre à Strepsiade pour qu'il efface ses dettes, ce sont elles, grandes souveraines des airs, des changements, des apparitions lumineuses et de l'obscurité, qui en sont l'origine. Ce sont elles qui pourront aider Strepsiade. Elles lui apprendront à parler et à changer la réalité comme il le voudra, comme elles changent l'état du ciel. Socrate demande à Strepsiade d'observer un silence religieux. Il se lance dans une prière solennelle et convoque les nuées. Strepsiade a peur d'être mouillé.
Seigneur, ô roi, air incommensurable, toi qui tiens suspendu la terre, éther étincelant, et vous, auguste déesse, nuée qui lancez les tonnerres et les foudres, levez-vous, montrez-vous aux chercheurs, aux puissantes en l'air suspendues.
Non, non, minute, je m'enveloppe dans mon truc pour ne pas me faire saucer. Dire que j'arrive de chez moi sans même un capuchon, misère.
Venez donc, ô nuée très vénérée, faire à cet homme une présentation, soit que vous trôniez sur les saints sommets de l'Olympe cinglé de neige, soit que dans les jardins d'Océan, votre père, vous meniez les danses des nymphes.
Les nuées répondent à la demande de Socrate, encore invisibles. Elles font de loin entendre un chant sublime qui parle de lumière, qui illumine le cosmos et ses richesses, qui éloigne les ombres.
Nuées au flux perpétuel, élevons-nous, donnons à voir notre nature humide, rayonnante, en quittant océan, notre père à la voix profonde. Montons sur les sommets, en haut des monts, chevelus d'arbres, pour contempler les pics visibles de loin, les fruits et la terre sacrée que l'on irrigue, et le chant des fleuves divins, et la mer qui gronde son chant profond, car l'œil de l'éther brille, infatigable, avec ses rayons éclatants. Allons, secouons le nuage de pluie qui couvre notre figure immortelle, et regardons d'un œil qui voit au loin la terre.
Puis, les nuées se disent attirées par Athènes, cette ville magnifique où resplendissent les cultes, les temples, les fêtes et son grand festival de théâtre, précisément là où la pièce d'Aristophane est jouée. Surpris, subjugué et affolé par tant de grandeur, Strepsiade ne sait réagir qu'avec les fonctions élémentaires de son corps.
Oh oui, très respecté, je vous révère et je veux péter en écho à vos tonnerres. Tellement elles m'effraient, me terrifient. Et là, tout de suite, si c'est permis, et même si ça ne l'est pas, je vais chier.
Socrate réprouve cette vulgarité digne des comédies de bas étage.
Non, pas de bouffonnerie. Tu ne vas pas faire comme ces maudits comiques, silence. Voici venir majestueuse. Un essaim de divinité. Elle chante.
Parlez-moi de la pluie et non pas du beau temps. Le beau temps me dégoûte et me fait grincer les dents. Le bel azur me met en rage, car le plus grand amour qui me fut donné sur terre, je le dois au mauvais temps, je le dois à Jupiter. Il me tomba d'un ciel d'orage. Par un soir de novembre, à cheval sur les toits, un vrai tonnerre de Brest avec des cris de putois, allumer ses feux d'artifice, bondissant de sa couche en costume de nuit, ma voisine affolée vint cogner à mon nuit en réclamant mes bons offices. Je suis seul et j'ai peur, ouvrez-moi par pitié. Mon époux vient de partir faire son dur métier. Pauvre malheureux mercenaire, contre un coucher d'or quand il fait mauvais temps, pour la bonne raison qu'il est représentant d'une maison de paratonnerre. En bénissant le nom de Benjamin Franklin, je l'ai mis en lieu sûr entre mes bras câlins. Et puis l'amour a fait le reste. Toi qui sèmes des paratonnerres à foison, que n'en as-tu planté sur ta propre maison? Erreur on ne peut plus funeste. Quand Jupiter alla se faire entendre ailleurs, la belle ayant enfin conjuré sa frayeur et recouvrer tout son courage, rentra dans ses foyers, faire sécher son mari, en donnant rendez-vous les jours d'intempéries. Rendez-vous au prochain orage. À partir de ce jour, je n'ai plus baissé les yeux, j'ai consacré mon temps à contempler les cieux, à regarder passer les nuées, à guetter les stratus, à lorgner les nimbus, à faire les yeux doux au moindre cumulus. Mais elle n'est pas revenue. Son bonhomme de mari avait tant fait d'affaires, tant vendu ce soir-là de petits bouts de fer, qu'il était devenu millionnaire et l'avait emmené vers des cieux toujours bleus, des pays imbéciles où jamais il ne pleut, où l'on ne sait rien du tonnerre. Dieu fasse que ma complainte aille tambour battant, lui parler de la pluie, lui parler du gros temps. auquel on a tenu tête ensemble. Lui comptait qu'un certain coup de foudre assassin dans le mille de mon cœur a laissé le dessin d'une petite fleur qui lui ressemble.
Pierre Judet de Lacombe raconte avec Aristophane comment on peut utiliser la philosophie pour ne pas payer ses dettes.
Trépsiade veut comprendre. Il demande à Socrate de lui expliquer qui sont ces nuées. Lui, il avait toujours considéré les nuages pour ce qu'ils apparaissent. De la vapeur, de la fumée, rien d'autre. Socrate lui révèle qu'elles sont des divinités fabuleuses. Celles dont Strepsiade a le plus besoin. Leur circonvolution dans l'air inspire aux hommes toutes les finesses du langage.
Par Zeus, je t'en supplie, Socrate, explique-moi ce qu'elles sont, elles qui viennent d'articuler ces mots augustes, des demi-déesses ?
Pas du tout. Des nuées, êtres célestes, grandes divinités pour les hommes inactifs, qui nous dispensent jugement, force argumentative, intelligence, miraculage, périphrase, mot-choc, tour paralysant.
C'est pour ça qu'à entendre leur voix, mon âme a pris son vol et veut parler subtil, discuter serré sur des fumées, taper avec sa petite formule sur la formule de l'autre et contredire le dire adverse. Alors s'il y a moyen, j'ai envie de les voir se manifester.
Les nuées finissent par se montrer. Le cœur entre en scène. Et Strepsiade commence à avoir des doutes. Socrate lui a parlé de divinités célestes, de nuages. Mais ce cœur ne ressemble pas à des nuages. Les nuages, ça ressemble à des moutons avec de la laine. Or, ce cœur ressemble à des femmes qui, bizarrement, ont un grand nez. Ce qui veut dire sans doute que les acteurs qui faisaient le cœur avaient un masque avec un nez proéminent. Pourquoi un grand nez ? Sans doute parce que le nez, c'est en rapport avec l'air, avec les nuées, puisqu'on aspire l'air par les narines. Socrate doit lui expliquer pourquoi ces nuages ont l'air de femmes. En fait, sur scène, ce sont des acteurs hommes déguisés en femmes, déguisés en nuages. Les nuages prennent toutes les formes, dit Socrate. Ils ressemblent à ce qu'ils ont vu. Et là, sans doute, que les nuages, en arrivant à Athènes, ont vu un homme efféminé. Socrate donne son nom. Puis, il faut expliquer à Strepsiade que face aux nuées, Zeus ne compte pas, alors que la tradition dit depuis toujours qu'il est le maître des nuages.
Eh oui, il n'y a qu'elle comme déesse. Tout le reste est blabla.
Mais Zeus, pour vous, dit par la terre, Zeus olympien, ce n'est pas un dieu ?
Quel Zeus ? Arrête ton délire, il n'existe même pas.
Qu'est-ce que tu dis ? Alors, qui pleut ? Explique-moi ça en tout premier.
Mais c'est elle. Je te l'enseignerai avec des indices puissants. Dis-moi, as-tu jamais vu pleuvoir sans nuage ? Il faudrait supposer que Zeus pleut par temps clair pendant qu'elles sont en voyage.
Par Apollon, ça colle tout à fait avec ce que tu viens de dire. Et pourtant, je croyais vraiment que Zeus pisse à travers un crible. Mais dis-moi, qui cause le tonnerre, ce truc qui me fait trembler ?
Le tonnerre, c'est elle, quand elle se roule dans tous les sens.
En bon scientifique, Socrate procède à une analogie. Il explique le tonnerre que produisent les nuées en prenant un exemple dans le monde connu de Strepsiade.
Je te l'enseignerai en partant de toi. Tu t'es déjà trouvé au festival d'Athéna, rempli de jus de viande, à gargouiller du ventre et à le sentir révolutionné par un fracas soudain.
Bien sûr, par Apollon. Tout de suite, il râle après moi, il gargouille, le cher petit jus crépite comme un tonnerre et crie méchamment, en sourdine d'abord. Puis il accélère et quand je chie, il tonne carrément comme les nuées.
Eh bien, regarde la grandeur du pet que tu sors de ce petit ventre de rien du tout. Cet air que nous voyons, étant infini, n'est-il pas naturel qu'il tonne très fort ? Voilà aussi pourquoi nous disons que là-haut, ça pète.
Strepsiade est convaincu. Il est initié. Les déesses nuées bienveillantes le bénissent. Strepsiade peut entrer dans l'école de Socrate et suivre son enseignement. Et là, ça se gâte. Évidemment, Strepsiane ne comprend rien, n'apprend rien, ou seulement de travers. Après plusieurs tentatives pédagogiques ratées, Socrate n'en peut plus. Excédé, il finit par renvoyer Strepsiade de son école. Le vieux est perdu, désespéré. Les nuées conseillent à Socrate de faire un geste, d'accueillir le fils de Strepsiade. Il y a en effet beaucoup à gagner à prendre un tel élève, et surtout, on ne sait jamais, les choses peuvent mal tourner. Et de fait, elles vont mal tourner. Strepsiade finit par convaincre son fils, Phidippide, d'aller s'instruire chez Socrate, et par convaincre Socrate d'accepter le jeune garçon dans son école, même si c'est encore un gamin. Strepsiade demande à Socrate de lui enseigner du dur, du radical, et notamment de lui enseigner le discours qui peut réfuter toute forme de justice. Socrate lui répond que ce n'est pas son affaire. Il y a deux formes de discours, celle qui est dite supérieure, parce qu'elle est dominante dans la société et veut imposer ce qui est juste, et celle qui est dite inférieure, parce qu'elle conteste toute forme de justice. Socrate dit que le gamin doit connaître les deux. Il choisira par lui-même. Paraissent alors sur scène deux personnages, qui sont les deux formes de discours. Le discours dominant, qui prétend détenir les critères de la justice, et le discours dominé, minoritaire, révolté, qui est en faveur de l'injustice. Une longue bagarre commence. Le discours dominant, c'est la tradition, ce qui est admis. Le discours dominé ou faible, c'est la nouveauté. Des maximes étonnantes, habiles, fracassantes, qui prétendent renverser l'ordre établi. Les deux commencent par s'injurier et se traiter de tous les noms. Le cœur des nuées s'impatiente et leur demande d'argumenter. Comme ça, le jeune fils pourra choisir quelle éducation il va suivre. L'ancienne, avec le discours dominant, ou la nouvelle, avec le discours dominé et injuste. Le discours dominant parle en premier. Il défend le monde d'avant, quand les jeunes gens étaient soumis à l'école, puis devenaient de braves guerriers. Ce discours n'a pas de vrais arguments, sauf que les jeunes étaient sportifs, instruits, et n'aimaient pas les bains chauds. Ils savaient se contrôler, et aussi, ils savaient être la joie des vieux. C'est assez peu ragoûtant. L'autre discours, le discours injuste, bouillonne d'impatience. À quoi ça sert, dit-il, que les jeunes gens se contrôlent, qu'ils limitent leurs désirs? Le discours dominant, qui se veut inspiré par la morale et par la justice, lui rappelle l'histoire de Pélée, le grand héros qui allait devenir le père d'Achille. C'est parce qu'il a su, un jour, résister à la tentation, quand son hôtesse voulait le séduire, qu'il a eu la vie sauve, et surtout que Zeus lui a fait épouser la magnifique Thétis.
Le discours dominé. Et toi, dis-moi, où est-ce que tu as vu que la modération, une seule fois, ait été un bien? Parle, sors-moi un contre-argument.
Le discours dominant. Plein de fois. Le grand Pélée a gagné un couteau grâce à sa modération.
Un couteau? Oh, le malheureux, quel joli petit cadeau!
Avec ce couteau donné par les dieux, Pélée a pu se défendre contre le mari de la séductrice qui était furieux contre lui. Puis, il a fait un mariage divin, mais qui n'a pas duré longtemps, rappelle le discours dominé. La belle Thétis n'avait rien à faire d'un modéré.
Et grâce à son goût de la modération, Pélée a épousé Thétis.
Et elle s'est taillée en le laissant sur place, car ce n'était pas un fonceur, ni une douceur pour passer de longues nuits sous les couvertures.
Finalement, le discours injuste, le discours dominé, l'emporte. Il montre à son adversaire, le discours soi-disant dominant, qu'en fait, à Athènes, tout le monde est débauché. Les spectateurs de la pièce le sont tous ou presque. Le discours dominant n'y tient plus. Il veut lui aussi se joindre à cette immense vague de plaisir. Il se déclare vaincu. Le jeune fils de Strepsiade entre dans l'école avec le discours injuste qui va le former. Le cœur des nuées donne alors un avertissement étrange. Il dit que Strepsiade se repentira d'avoir mis son fils dans cette école et de fait, ça va très mal tourner. Le fils a droit à sa formation. Puis il sort avec l'air instruit, civilisé. On dirait un vrai Athénien. Son père est ravi. Mais qu'a-t-il vraiment appris ? Va-t-il sauver son père, criblé de dettes ? Socrate va-t-il donc triompher ? Sa science est-elle infaillible ? Une inquiétude commence à poindre pour ces gens. Le cœur dénué, qui a d'abord soutenu toute cette entreprise de tromperie, a dit à Strepsiade qu'il va regretter de s'être lancé dans une telle aventure. Que nous réservent les nuées, ces déesses, merveilleuses et terribles ? Comment tout cela va-t-il finir ? Nous le saurons, sans doute. Ce sera le prochain épisode. Socrate brûle-t-il ?
Quand les dieux rôdaient sur la terre, Pierre Judet de Lacombe.
Cette émission a été réalisée par Xavier Pestugia. Des archives sonores ont été choisies par Claire Tesser. Les textes ont été lus par Yaël El-Haddad et Laurent Stocker. Bonne journée sur France Inter.